J'habite à Damghen et j'ai été toute ma vie dans le milieu rural, après avoir été agriculteur jusqu'à 20 ans.
Jean Cazeneuve, né en 1939, entretien du 4 juillet 2019.
Et après mon régiment étant cadet de famille, j'ai été obligé de changer d'orientation, malgré moi, vers des métiers d'animation du milieu rural en devenant animateur du CDJA des Pyrénées-Atlantiques, puis formateur dans le cadre d'une association de formation que nous avions créée pour aider des agriculteurs à devenir responsables et à comprendre ce qu'ils faisaient quand ils étaient responsables. Cela n'a pas plu à certains dirigeants de l'époque qui se voyaient assaillis de questions dans les assemblées générales. Mais ils ont décidé de supprimer les crédits à l'association qui m'employait. Et donc j'ai recherché un travail. Je me suis retrouvé embauché à la coopérative de céréales du bassin de l'Adour.
Comment avez-vous connu Béarn Pont-de-Kamps?
J'étais depuis l'adolescence dans un mouvement d'action catholique qui s'appelait à l'époque la JAC, avec son appellation locale Jeunesse rurale du Béarn. Et j'ai été, à 17 ans, le responsable fédéral de la branche adolescent. Ce qui m'a amené, à l'âge de 18 ans, à organiser à Sarans un premier camp de jeunes pour des enfants d'agriculteurs, garçons, qui ne partaient pas en vacances à l'époque. Les filles partaient, mais les garçons devaient rester à la ferme. Et en 1958, avec l'abbé Sautier, on a organisé à Sarans un premier camp où on a réuni 14 adolescents. Et ça a été tellement formidable que l'année suivante, il y avait déjà 7 ou 8 camps qui s'organisaient. Et puis, pendant mon régiment, ça a continué jusqu'au jour où j'ai reçu une photo de l'abbé Benz, qui était l'aumônier à l'époque de la JAC, et qui me disait qu'ils avaient fait une réunion préparatoire à Sainte-Croix, à Pau. Et il y avait 150 jeunes animateurs. Et j'étais en Algérie, et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, ben, ça y est, les camps ne sont pas morts. Et lorsque je suis revenu en 1962, j'ai été happé par les jeunes de mon village qui m'ont dit, petit Jean, tu nous aides à faire un camp, et on est reparti. L'histoire, pour moi, de Pont-de-Kamps démarre dans ce désir d'organiser des camps de vacances. Mon histoire de Pont-de-Kamps commence en octobre 1962, où l'abbé Benz, après m'avoir appelé, il me dit, petit Jean, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait nous intéresser pour nos camps de vacances. Je suis monté à Pont-de-Kamps et j'ai vu les baraques de Pont-de-Kamps qui pouvaient être mises à disposition. J'étais au CDJA, mais j'organisais quand même des camps avec Artix. Tous les ans, on partait. Et lorsqu'on a découvert Pont-de-Kamps, ça a été un rêve qui commençait. Et en juillet 63, j'organisais à Pont-de-Kamps le premier camp de jeunes garçons en compagnie d'un groupe de Juillans dans les Hautes-Pyrénées, qui s'est terminé d'une façon incroyable. Il y avait 50 jeunes qui pleuraient de se quitter. Voilà mon premier souvenir de Pont-de-Kamps en tant que camp de vacances.
Et donc, après 1963, que s'est-il passé?
Oh, il s'est passé que tous les groupes qui cherchaient des bâtiments pour abriter les camps, ils se sont jetés sur Pont-de-Kamps. Et tout de suite, Pont-de-Kamps a été le lieu d'organisation de dizaines de camps de vacances, garçons et filles, pas mélangés à l'époque, s'il vous plaît. Et Pont-de-Kamps est devenu tout de suite le lieu rêvé et magique où des tas de jeunes ont fait la connaissance de la montagne, ont fait la connaissance de ce type d'activité, parce que ça s'est développé très vite. Il y a eu je ne sais combien de groupes qui ont pu monter à Pont-de-Kamps, parce que c'était des groupes qui existaient déjà. Partout, il y avait des groupes de jeunes qui fonctionnaient, d'adolescents. C'était extraordinaire le besoin d'activités de ce type pour les jeunes ruraux, qui n'avaient pas à l'époque tous les loisirs qu'il y a maintenant, et qui étaient un peu frustrés parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens non plus. Et Pont-de-Kamps offrait non seulement le cadre, mais les conditions. C'était le rêve. On a dévoré du Pont-de-Kamps, et en décembre 1963, Artix a organisé le premier camp d'hiver à Pont-de-Kamps aussi. Puisqu'on a organisé en décembre 63 avec Artix et un jeune abbé, l'abbé Sabat, qui venait d'être ordonné prêtre le 23 décembre. Et le 26 décembre, il montait à Pont-de-Kamps avec un groupe de jeunes pour faire un camp de neige et de vacances d'hiver. Il y avait 1,50 m de neige déjà, et on faisait de la luge sur une pente où on faisait les tremplins avec des cailloux, et on payait la remontée mécanique. Il y avait M. Vignoux qui avait installé un fil à la SCAB. Le fil était au sol, au-dessus de la neige. Il nous tirait sur 300 mètres et pour 50 centimes francs. On faisait des tas de montées, de descentes, et on rigolait, et on a passé un séjour encore extraordinaire. Plus le réveillon, plus autre chose. Vu le succès de ces activités, des camps et les besoins qui se faisaient sentir, la JRB avait racheté un chalet au Gros Hêtre sur la route de Gourette. C'est là que les filles allaient en priorité.
Quel était l'état des bâtiments en 1963 ?
Très rustique. Les bâtiments, c'était des assemblages qui avaient été très bien faits. La preuve, c'est que c'est toujours le même bâti à la même charpente. Les chalets, c'était un assemblage de piliers en bois, de poutres et de poutrelles et de chevrons en bois, couverts de tôles ondulées, et ils étaient au nombre de 4. Dans le chalet principal, qu'on appelait le chalet F, il y avait l'entrée, la cuisine, avec une réserve à côté, réserve de matériel, réserve alimentaire, et une série de 8 chambres, qui étaient des chambres déjà avec le lavabo, le grand luxe. Il y avait un grand réfectoire, qui pouvait recevoir 100 personnes, un petit réfectoire, qui était le réfectoire des anciens cadres de la société qui avait construit les chalets, puisque ces chalets avaient été construits pour la construction du barrage de Fabrège, lequel a été inauguré en 1946 et que j'ai visité en 1947. Moi, j'ai un souvenir très vivace de cette première rencontre avec la montagne au lac de Fabrège. Et on nous avait dit, quand on a pris les chalets, que c'était pour abriter les ouvriers qui étaient restés pour la centrale de Pont-de-Camps, qui a été créée de 1956 à 1962, et qui était restée là en l'état. Alors, en 1963, Monsieur Le Tellier, directeur de la centrale du Haut-Rat de la Reims et maire de la Reims, nous avait dit « ces chalets ne vont plus servir ». La SNCF, propriétaire des eaux de la vallée, qui fabrique sa propre électricité dans ses centrales, a décidé de prendre l'option nucléaire pour son alimentation. Donc ces chalets sont inutilisés actuellement et nous les avons eus à disposition pratiquement gratuitement jusqu'en 1971. Et alors les planchers sont devenus vieux. Les cloisons qui séparaient les chambres étaient constituées de 2 parois d'isorelles, mais sans aucun matelas entre elles. À force d'utiliser les chalets, les jeunes avaient pris l'habitude de raccourcir les moyens de communication interne, et à l'aide d'un bâton ou d'un balai, ils perçaient les cloisons d'isorelles et ils communiquaient à travers les trous. Ce qui fait que, de temps en temps, il fallait aller recoller des morceaux d'isorelles pour boucher les trous. Il fallait redresser des lits qui avaient supporté des charges, parce qu'on s'amusait aussi à faire pielle, c'est-à-dire empilage sur les lits qui devenaient tout pliés. Et les chalets étant dans l'humidité quand même au sol, les planchers avaient des faiblesses. Et avec l'équipe d'Artix, nous sommes devenus les réparateurs permanents des chalets de Pont-de-Camps. Et nous montions je ne sais combien de week-ends dans l'année. C'était une vie très intense, mais où on a pris beaucoup de plaisir. Ces souvenirs-là ont été extraordinaires.
Et alors, quand vous étiez là-bas l'été, comment ça se passait ? Qu'est-ce que vous faisiez ? C'était quoi vos journées types sur les camps d'été ?
Les camps étaient préparés. Nous ne partions pas à Pont-de-Camps comme ça. C'était pas seulement du loisir, n'importe quoi, n'importe comment. Et les camps de vacances étaient des moments, il y avait une réflexion qui prolongeait l'action du mouvement Jeunesse Rurale du Béarn à travers les vacances. Et ça voulait dire que les camps s'organisaient d'une manière qui était prévue, avec un programme qui était établi à l'avance, au moins dans les grandes lignes, et qui prévoyait telle journée découverte, telle journée balade ou sport, telle journée rencontre, telle journée ceci, cela. Je me rappelle une journée sport à la SCAB avec plusieurs activités, dont un match de foot mémorable où il a fallu enlever les cailloux d'abord du terrain pour pouvoir jouer au ballon. Les journées se passaient d'une façon très détendue. Il n'y avait rien de dirigiste, mais c'était un consentement largement accepté par les jeunes et qui se passait d'une façon quasi parfaite parce qu'on n'avait pas de pression. On savait à quelle heure on se levait le matin. Et il y avait une discipline qui faisait que, on s'organisait pour pouvoir avoir l'activité de la journée sans avoir trop de retard. Les camps étaient sous la responsabilité, à l'époque, de deux prêtres. C'était Justin Laban et Pierre Ugarte-Mendia, qui acceptaient bénévolement de prendre la direction du centre de Pont-de-Cambre, du fait de leur formation et de leur habilitation. Toute l'animation dépendait du groupe lui-même. Et donc, les camps se passaient très bien, avec des journées qui étaient bien remplies, parce qu'on avait prévu à l'avance, par exemple, pour les soirées, des thèmes de discussion tous les soirs.
Qu'est-ce qu'il y avait comme thème, par exemple ?
La famille revenait souvent, les études. Je ne me rappelle pas avoir eu des discussions où les inquiétudes sur l'avenir surgissaient. Beaucoup de jeunes aussi, à 16 et 17 ans, ils savaient déjà vers quoi ils iraient. Même en étant étudiant, ils savaient quelle filière ils prendraient. S'ils étaient fils d'artisans, les uns disaient oui, les autres disaient non, mais ils savaient aussi. Il y a des enfants de paysans qui disent « moi je continue, moi je continue pas ». C'était quand même quelque chose qui était très très différent, je crois, du ressenti des jeunes actuels qui, à 16 et 17 ans, pour beaucoup d'entre eux, ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Il y avait des discussions sur tout ce qui faisait la vie des jeunes, les loisirs, la religion, avec la vie des prêtres. Je me rappelle l'abbé Ossat, curé d'Artix, qui avait été interrogé par les jeunes, très directement, un soir. « Mais comment vous êtes habillé ?» Parce qu'il avait la soutane. « Eh bien, comme vous, j'ai une soutane en plus. Vous êtes en short ?» Mais bien sûr, et il a enlevé sa soutane. On a vu un curé avec des jambes. Il faut reconnaître que c'était d'autres préoccupations, peut-être, que celles de maintenant. Dans les familles rurales, il y avait des choses qui étaient un peu taboues. Et là, les jeunes s'ouvraient, on discutait de tout. Puis on chantait, on dansait pas, parce que entre garçons, on dansait pas. Hein. Et je me rappelle aussi, malgré quelques soirées ô combien animées et un petit peu turbulentes, que les jeunes acceptaient d'aller au lit et se coucher et se préparer au lendemain. Alors, je ne dis pas que c'était 10 heures du soir, c'était quelquefois 1 heure du matin, mais quand même. Et je me rappelle aussi d'une soirée particulièrement turbulente, que je m'étais dit, il faut les calmer. Le lendemain, on fait une balade, où c'est qu'on va ? Vous allez me suivre, vous allez voir, c'est une belle balade. Mais on est parti de Pont-de-Camps, on est monté au Caillou de Soc, on est monté au Vallon d'Arius, au Col d'Arius, on est descendu au lac d'Artoust, dont on a fait le tour, on est revenu au barrage d'Artoust et on a pris le long du petit train la direction de la Sagette, on est arrivé à la Sagette. Les jeunes faisaient du stop parce qu'ils commençaient à en avoir marre pour se faire prendre par le train. Il n'y en a aucun qui a pu monter. Et à la Sagette, ils étaient à mes pieds en me disant « Mais Jean, trouve quelque chose pour qu'on descende, on est crevé. » J'ai dit « Ce soir, vous allez dormir. » Et on est revenu à Pont-de-Camps et ils ont dormi. Voilà le type de journée qu'on pouvait avoir à l'époque à Pont-de-Camps.
Alors, vous avez fait de belles excursions là-bas ? Vous avez de beaux souvenirs des pics, des cols
Non.
Est-ce qu'il y a des balades que vous
préférez ? Non, parce que c'était des balades très limitées. Le camp ne durait pas non plus très très longtemps. On faisait 5-6 sorties, la cabane d'Arregatti, la cabane de Saouliste, la cabane de Chéru. On allait aussi, à l'époque, à la frontière, parce qu'en dehors d'une journée où on restait là, ou bien on avait d'autres activités, tout ça. Le camp durait 8-10 jours. On n'est pas revenu à Pont-de-Camps plusieurs fois l'été. On est allé une fois l'été, une autre fois l'hiver. Mais après, moi, j'ai arrêté aussi d'encadrer les camps parce que mes activités professionnelles ne me permettaient plus de rester là. Je suis resté très en contact avec Pont-de-Camps à travers l'équipe d'Artix pour l'entretien des chalets. J'y suis allé pour des réveillons de jeunes, mais je n'animais plus à partir de 1963. Et puis, ayant rencontré Marie-Jo à Pont-de-Camps, on a décidé de se marier et là, ça a été une vie différente. C'est vrai que je me suis engagé dans Pont-de-Camps à travers toutes ces activités et que j'en suis devenu un peu mordu très tôt, jusqu'à ces années 70, où la question s'est posée de la reconstruction. C'était la JRB qui a organisé les camps et du fait de l'incendie de Saint-Laurent-du-Pont dans l'hiver 70-71, les normes de sécurité nationales ont été revues entièrement et bien sûr, le centre de Pont-de-Camps n'a plus reçu les autorisations de fonctionner l'hiver. Il était autorisé à fonctionner l'été sous condition et on savait très bien qu'il y aurait un moment où l'autorisation s'arrêterait. Comme je faisais partie, au titre des anciens de Pont-de-Camps et de la jeunesse rurale du Béarn, d'une équipe, mais informelle, parce que nous nous retrouvions avec quelques anciens, dont Henri Ourcade, il y a eu une réflexion collective qui a abouti à un constat. Pont de Cam ne peut plus fonctionner comme ça. Si nous voulons que ça continue, il faut le transformer. Et l'idée d'une reconstruction est née. La JRB a dit tout de suite, nous ne pouvons pas, nous, reconstruire Pont de Cam. Il faut que des adultes nous aident. 5 mars 1972, en créant une association et un bureau provisoire, et qui a abouti à la mise en place d'une équipe qui a pris en charge la reconstruction de Pont de Cam et qui s'est appelée l'association Béarn Pont de Cam.
Alors, toute cette évolution depuis 1972, donc il y a eu les travaux. Comment ça s'est passé, cette première tranche de travaux-là?
Ça, il faut le voir pour le croire. On parle de 72, mais il faut parler de 77, puisque pendant 5 ans, nous avons attendu le permis de construire. Et que là, l'équipe de Pont de Cam a fonctionné comme si Pont de Cam était construit. Mais rien n'était construit. Depuis le 10 janvier 71, où on a réfléchi déjà aux possibilités de reconstruction, jusqu'au 5 mars 1972, où nous avons créé l'association, toutes les démarches qui ont été faites auprès de tas de dirigeants, de sociétés, de ceci, de cela, pour voir comment mettre en route la construction de Pont de Cam. C'était incroyable. Pendant 5 ans, nous avons attendu et espéré à la fois les autorisations et les financements. Vous voyez les étapes par lesquelles nous passions, avec des projets plein la tête et pas d'argent. Et donc, j'ai le souvenir, mais pendant 5 ans, de ces réunions que nous faisions en nous disant ce que nous avions fait, ce qui restait à faire, qui était chargé de quoi, est-ce qu'on y allait seul ou à plusieurs, etc. Et quand nous nous retrouvions, nous savions à l'avance ce qui allait être dit et où nous en étions, parce que nous savions ce que les autres avaient fait et nous pouvions partir de suite sur la suite. La première association de Pont de Cam s'est née comme ça. Et en septembre ou octobre 1977, avec le permis de construire, tout est parti. On a démoli, on a reconstruit et une aventure extraordinaire s'est créée parce que ce que nous avons vécu à Pont de Cam, à travers les engagements, à travers le bénévolat, à travers l'implication d'artisans qui venaient en tant que professionnels à Pont de Cam, qui nous aidaient en tant que bénévoles avec des équipes de bénévoles pour continuer, c'est formidable. Tout ce qu'il y a eu comme engagement bénévole, sous la responsabilité aussi de 2 personnes, un qui était très technique au point de vue travaux, Jean-Claude Crabos, et Henri Ourcade, qui a été le liant de l'équipe. Et Jean-Claude et Henri sont au cœur de la réussite de Pont de Cam.
Alors ça, c'était l'année 1977.
Oui, le début.
Les travaux,
oui.
Ont duré combien de temps?
Alors, la première tranche, parce qu'il a fallu quand même refaire tout à neuf, bâtir des liaisons entre les chalets, parce qu'avant, on vivait dans le chalet principal, puisque nos activités se résumaient à la grande salle qui était le réfectoire et la salle d'activité. Mais tout se passait pratiquement là, le jour, le soir. Les autres chalets ne servaient qu'à abriter le sommeil. Là, il s'agissait d'avoir des espaces où on ait à la fois des possibilités de faire des choses différentes, d'accueillir des groupes différents. Il y a eu une réflexion à laquelle les jeunes ont beaucoup participé, qui a demandé à ce qu'on aménage Pont de Cam avec des espaces de vie et des espaces de détente. À l'origine, il y a eu comme ça plusieurs salles qui ont été créées dans la première construction pour permettre justement ce type de fonctionnement et de rencontre. Ensuite, on a aménagé quand même des espaces sanitaires, parce que c'était quand même là aussi très vétuste. L'idée étant que Pont de Cam étant dans un lieu qui était quand même le domaine des bergers, il y ait quelque chose aussi pour les bergers. Et c'est Justin Laban, qui était très ami avec plusieurs d'entre eux, qui a suggéré l'idée, qui a été acceptée, que des sanitaires, water et douches, puissent être accessibles depuis l'extérieur pour être utilisés par des bergers qui l'auraient désiré. Parce qu'il faut reconnaître aussi, nous n'avons pas été toujours acceptés à Pont de Cam, nous sommes restés très longtemps les étrangers.
Il y avait quand même des groupes qui allaient rendre visite à des bergers,
oui.
Il y avait quand même des échanges.
Oui, mais tout ça s'est à peu près normalisé.
Voilà.
Les bergers, ils ont reçu aussi beaucoup de groupes. Saoubiste a été un lieu de connaissance de la fabrication du fromage des Pyrénées pour beaucoup de jeunes. On a été finalement reconnus comme une association qui organisait des vacances pour non seulement des jeunes, mais des familles, parce que là aussi on n'a pas parlé de l'évolution de Pont-de-Cambre, qui est devenu centre de vacances pour des jeunes, et qui progressivement, et à partir de 1972 notamment, est devenu lieu de vacances l'été pour des familles. Parce qu'à travers les parents ou les grands-parents, quelquefois, qui venaient voir leurs petits-enfants et qui disaient « moi c'est pas mal », ils passaient 2 jours, et puis 3 jours, ils invitaient des amis, et on avait des groupes d'adultes. On avait le fameux groupe des mémés de Nousty, qui venaient tous les ans, et qui étaient de personnes, mais d'un certain âge, 70, 72, 75 ans, qui venaient avec la maman d'Irène. J'ai pas parlé d'Irène non plus, comment fonctionnait Pont-de-Cambre. Il y avait 2 directeurs qui faisaient juillet et août, mais il y avait aussi, très vite, en 71, une cuisinière bénévole qui s'appelait Irène Sartougaris et qui a accepté de venir, pendant ses congés, faire la cuisine à Pont-de-Cambre. Elle a apporté énormément, à tel point qu'elle était devenue un petit peu la maîtresse de maison. Elle faisait un peu tout, l'accueil, la gestion des séjours, la paye, la préparation des pique-niques, la cuisine, etc. Et en plus, avec la mémoire extraordinaire qu'elle avait, elle était au cœur de tout. Elle connaissait les bergers, connaissait les histoires, connaissait tout. Et était vraiment un lien très fort dans l'animation de Pont-de-Cambre. Et Pont-de-Cambre, après, est devenu un lieu de vacances qui s'est développé, puisque quand même 9000 journées organisées dans l'année, c'est pas rien. Il n'y a pas que l'été, il n'y a pas que les camps. Il y a des groupes et ça s'est développé. Et grâce à tout ce qu'on a pu faire, on est devenu un centre agréé par l'éducation nationale. Il y a des écoles qui sont venues en classe déplacée, pas seulement classe de nature, classe déplacée. On est agréé par Jeunesse et des Sports pour faire des camps de jeunes et de la formation au BAFA, au BAFD, etc. Donc il y a eu toutes les autorisations et toutes les reconnaissances possibles pour que Pont-de-Cambre devienne un centre vraiment équipé et accueillant. Ce que je retiens, moi, de l'histoire de Pont-de-Cambre, qui est pour moi quelque chose d'exceptionnel. J'ai eu l'occasion de dire, à part tout ce qui concerne ma famille, Pont-de-Cambre aura été pour moi ce qui a compté le plus dans ma vie. C'est quelque chose qui m'a terriblement marqué, où je me suis investi, accroché, et où j'ai vécu des tas de notions que j'ai cherché à vivre par ailleurs, dans ma vie professionnelle, dans mon engagement syndical, dans mes engagements civiques, etc. Mais ce que j'ai vécu à Pont-de-Cambre, c'est quelque chose de très fort, parce que il y a de la solidarité, il y a de la confiance, il y a l'absence de recherche de pouvoir. Il y a la complémentarité. Il y a une amitié extraordinaire qui est née de ces chantiers où on a partagé les choses. Et ces souvenirs-là sont ancrés et ont marqué ma vie. J'ai eu la chance aussi de pouvoir faire ça en famille, parce que beaucoup de choses ne se font pas en famille. On peut partager des choses, découvrir des choses, faire des choses ensemble qui laissent des souvenirs communs après, qui sont indélébiles. Et j'ai cette chance, parce que ça fait quand même 56 ans que ça dure. 56 ans, c'est pas rien. C'est une vie entière, quoi. Alors, l'évolution, elle s'est faite. Maintenant, une nouvelle tranche, une nouvelle conception, une nouvelle façon de voir les choses, puisque les aménagements vont conduire aussi à des fonctionnements sans doute différents avec les chalets tels qu'ils sont, avec des équipes différentes. Les responsables qui ont fait Pont-de-Cambre en 1972, pour certains d'entre eux, sont encore en place et ils l'ont démontré à travers les chantiers du nouvel aménagement. Et c'est maintenant les nouveaux qui vont devoir prendre en charge le fonctionnement et adapter ce fonctionnement aux exigences nouvelles, etc. Je ne suis pas inquiet du tout, parce que Pont-de-Cambre, c'est un outil formidable. C'est ce sentiment de fonctionnement collectif, dans la simplicité et dans le respect absolu, c'est-à-dire qu'on devienne un peu moins consommateur et un peu plus participant. L'enjeu, à mon avis, est là, et si la nouvelle équipe arrive à recréer ce climat un petit peu de simplicité, de don de soi et d'amitié qui fait que mais on a pu faire un Pont-de-Cambre dans ces conditions, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de bénévolat. Et c'est à la base le bénévolat qui a permis Pont-de-Cambre. Est-ce que ça vous convient?
Est-ce que vous, ça vous convient?
Ah, bon, ça va, hein, moi,
alors très bien.